Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, interview sur RDIWA. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Patrick Berger. Bonjour.
Bonjour.
Alors Patrick, vous êtes ici pour nous annoncer les villages perchés qui auront lieu fin juin, du 23 au 25 juin. Alors, c'est des villages perchés de Drôme et d'Ardèche.
Oui, nous avons eu l'idée à Livron de faire toute une manifestation sur le thème des villages perchés. Ça sera exactement autour des villages perchés de Drôme et d'Ardèche. Je pose tout de suite le problème. J'en ai déjà recensé un peu plus de 250. Et il y en a beaucoup plus dans la Drôme que dans l'Ardèche pour des motifs historiques, des motifs géologiques, des motifs très diversifiés. Et donc, ça se passera de la façon suivante. Les 23, 24 et 25 juin 2017, il y aura à la mairie de Livron, dans l'intégralité des salles, c'est-à-dire plus de 500 mètres carrés, tout un ensemble de manifestations. Dans un premier temps, une série de conférences. Alors, il y aura une première conférence en avance que je ferai le mardi 13 juin sur l'historique des villages perchés. Pourquoi y a-t-il eu des villages perchés ? Ensuite, il y aura une autre conférence le 22 juin par Yves Mangin, qui est le président du syndicat des vignerons du Brézem, qui nous fera la vigne près des villages perchés. Et le 24 juin, Michel Célérien, qui nous fera une conférence sur la vie des Livronnais du 16e au 18e siècle. Et bien entendu, la vie des Livronnais, ben, c'est celle de tous les habitants des villages perchés. Plus toute une série d'expositions. Déjà des expositions artistiques, de peinture. J'ai même des dames qui veulent faire de la peinture sur soi, du patchwork, etc. Donc on pense entre 100 et 150 œuvres exposées. Quand on parle d'œuvres d'art sur des villages perchés, ça peut être l'intégralité du village, ça peut être un détail architectural. La seule chose, c'est qu'on demande aux gens de nous dire de quel village il s'agit, parce que ce n'est pas toujours évident. Il y aura aussi une exposition de photographie. On espère 200 à 300 photos, donc des amateurs. On a deux professionnels, donc Claude Fougérolles qui est le photographe de l'Ardèche, qui est tout à fait d'accord pour participer avec nous et qui a fait surtout toute une série de photographies en hélicoptère, en ULM, et qui sont vraiment de toute beauté. Il y aura une exposition sur les villages perchés eux-mêmes, c'est-à-dire des panneaux, retraçant l'histoire des villages, retraçant. Alors, on travaille avec des municipalités comme Chabrillan, qui a une exposition qui viendra, comme Saint-Georges-les-Bains, L'Oriole, Mirmande, qui ont déjà fait ce genre de choses à leur niveau. Et on va se retrouver avec entre 30 et 50 panneaux d'explication sur les villages perchés des environs. En plus de ça, un diaporama, on voudrait entre 400 et 500 photos, un diaporama qui tourne en boucle avec une dizaine de photos par village, alors fait par tous ceux qui veulent participer. C'est-à-dire là, j'ai envie de vous dire, j'en profite pour lancer un appel au peuple des villages perchés, et il y en a dans le Diois, il y en a des magnifiques. Vous en avez un formidable, pas très loin, qui s'appelle Aurel, qui a cet avantage d'avoir une meute, deux meutes féodales, une meute beaucoup plus ancienne avec un vestige de village, qui, le tout ayant été abandonné et reconstruit quelques centaines de mètres plus loin. C'est un cas particulier, il y en a quelques-uns comme ça. Donc ce que je demande, c'est s'il y a des gens qui aiment faire de la photo, qui aiment faire de la peinture, qui ont déjà fait ce genre de choses, qui prennent contact, on arrivera bien à leur trouver un petit coin pour exposer. Je précise tout de suite que tous ceux qui exposent, c'est gratuit, on ne demande rien. S'ils vendent, tant mieux pour eux, et il n'y a pas de pourcentage pour l'association qui organise. Alors évidemment, Tout ça s'est organisé à la base par l'association des Reflets d'Argent, qui est une association de, ça veut bien dire ce que ça veut dire, de personnes âgées, mais en association avec d'autres associations, les artistes réunis et les associations des villages avoisinants. Avec évidemment l'aide de la municipalité qui nous fournit toute la logistique, et ça, c'est très important.
C'est un travail de, sur la mémoire aussi, du patrimoine. Et oui. Le département prend part aussi à cette organisation, ou comment ça se passe?
Là, c'est non, pour le moment. C'est-à-dire que c'est parti d'une idée il y a à peu près un an, en disant on va essayer de faire quelque chose d'original, de sympa. Et quand on lance des idées comme ça, puis après, évidemment, ça se structure. Non, ce qu'on aimerait, c'est que... Ça représente énormément de travail, que par la suite, ça soit reconduit. Ça sera reconduit tout ou partie, évidemment, au moment des journées du patrimoine. Et puis les communes avec lesquelles on travaille nous disent ben, « Pourquoi vous ne viendriez pas chez nous ?» Alors on arrangera ça en fonction des places disponibles, en fonction des disponibilités de chacun, puis on avisera. La problématique, elle est la suivante au niveau des villages perchés. Depuis le néolithique jusqu'à nos jours, toutes les fortifications n'ont été que des fortifications de refuge. On n'a jamais, à part quelques villes évidemment, les gens ont utilisé les fortifications que pour se réfugier. Hein? Mur de l'Atlantique, hein, par exemple, on se réfugiait dedans. Hein? Par contre, entre le XIIIe et le XVIe siècle, les gens se sont installés dans des villages qui, derrière des fortifications, dans des conditions qui ne sont pas l'idéal. C'est-à-dire, vous vous mettez en hauteur, il n'y a pas d'eau, on est serré, c'est malsain, tout y est, alors que quelques dizaines, voire quelques centaines de mètres en contrebas, vous avez la plaine où vous pourriez être à l'aise, vous avez de l'eau, vous avez la place pour cultiver. Voilà, la problématique est la suivante. Et puis, là, j'ai résumé en 30 secondes ce que je mettrai 2 heures à vous expliquer.
Vous citiez Aurel comme exemple dans le Diwa. Est-ce que vous pouvez nous faire un bref aperçu de l'historique, justement, d'Aurel?
Je pourrais, je n'ai pas les documents sur place. 250 villages en Ardèche et en Drôme. J'ai évidemment toute la documentation pour faire un petit historique sur chaque village. Je ne les connais pas par cœur. Hein. J'ai travaillé plus profondément sur les villages autour de Livron, ce qui est tout à fait normal. Donc, en recherchant évidemment tout ce qui est village fortifié, tout ce qui est village perché, tout ce qui est mode féodal ou castral, c'est la même chose. Hein. Vous avez des modes castrales du XIe siècle qui ont donné suite à des villages, d'autres qui n'ont pas donné suite. Vous avez des modes castrales qui sont installés dans la plaine et qui ont disparu plus rapidement. Je résumerai en vous disant, j'ai 250 cas particuliers. Il y a des tendances qu'on retrouve. Je me suis amusé à faire des panneaux, c'est-à-dire prendre la photo aérienne verticale d'un certain nombre de villages, faire une interprétation de la partie castrale, de la partie féodale, de la partie habitat, des extensions au cours des âges. On retrouve le même schéma très souvent. Mais c'est jamais la même chose.
Quel est cet intérêt pour vous et pour d'autres associations de maintenir ce souvenir de ces villages et même de présenter l'origine de ces villages encore aujourd'hui?
Tout simplement parce que ça fait partie de l'histoire. Et nous, ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes le résultat de cette histoire, tout simplement. Et actuellement, on écrit l'histoire pour les générations futures. Je ne sais pas ce qu'elles en penseront, hein, mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on ne sera plus là. Donc, je crois que c'est intéressant pour chaque habitant de savoir que son village... On a parlé de Livron. C'est vrai que Livron, est, à l'époque antique, Livron n'existait pas. Par contre, dans la plaine livronnaise, il y avait une trentaine d'établissements romains. Le vieux Livron, le haut Livron, s'est installé à partir du 11e siècle sur la colline et n'est redescendu qu'à partir du 17e, 18e siècle. On considère que la paix, la tranquillité qui a permis aux gens de redescendre en toute tranquillité et de s'installer partout, c'est pas avant 1730. C'est vrai qu'à cette époque-là, les guerres de religion étaient terminées, qui ont eu pour conséquence la destruction de toutes les fortifications, avec l'édit de Richelieu de 1629. Mais il y a eu les dragonnades, il y a eu les passages de troupes, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que les gens ne se sont sentis en sécurité qu'à partir de 1730. Et on retrouve actuellement un certain nombre de villages, j'en ai entre 20 et 30 sur les deux départements, des villages qui ont été totalement désertés et qui sont installés un petit peu plus bas. Vous avez Mirabel et Blacon, par exemple, le village de Mirabel. Dans le secteur, il n'y en a pas tellement. Mais du côté de Montélimar, vous avez un village comme Allan à côté de Montélimar, qui s'est installé 400-500 mètres plus loin. On peut dire, Aurel, c'est un petit peu la même chose, dans la mesure où la mode féodale, le village primitif, a dû se déplacer. Mais enfin, quand on connaît le relief, on s'aperçoit que le village primitif, il n'aurait pas pu prendre de l'extension avec les falaises, avec le terrain. Hein. Oui, chaque cas est un cas particulier.
Oui, par exemple, au-dessus de Châtillon, et je crois comprendre qu'il existe aussi des lieux qui ont été abandonnés, mais qui étaient occupés il y a quelques siècles. Alors, les trajets étaient faits à dos de mulet, je suppose.
Oui, c'est toute la différence entre les chemins chartiers et les chemins muletiers. Hein, chariot, il faut que ça soit suffisamment large et pas trop de pente. Avec des mulets, vous pouvez passer n'importe où. Hein. Donc, là, on pourrait par la suite refaire une émission simplement sur les voies antiques, les voies modernes, et puis tout ce qui s'est passé au Moyen-Âge avec la création des chemins muletiers, des chemins caladés, à votre disposition quand vous voulez. Hein.
Patrick Berger, vous exerciez quelle activité auparavant ?
Ah, là, il faudrait presque une émission aussi de trois quarts d'heure parce que j'en ai eu pas mal dans ma vie. Mais d'abord, je n'ai jamais été prof. Et deuxièmement, ça n'a jamais été mon métier de faire des recherches historiques. Ça a toujours été une passion, l'archéologie. J'ai pas mal bourlingué en France. Et partout où je suis allé, je me suis intéressé au passé, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, à l'histoire. Puis c'est intéressant. Et puis ça permet de travailler avec tout un tas de gens. Faut être dingue pour faire ça. Mais on arrive à rencontrer des gens qui sont pareils. On se complète, on s'amuse bien.
Cette initiative autour des villages perchés, c'est la première édition ?
C'est la première édition. On espère qu'il y en aura d'autres. Parce que c'est beaucoup de travail. On se dit, faut pas que ça serve qu'un week-end. Que ça serve. Bon, il y a deux ans, j'avais fait beaucoup de recherches sur les voies romaines parce qu'on m'avait demandé de faire une conférence à ce sujet-là. Bah, je suis content parce que je refais cette conférence 3-4 fois par an dans des lieux différents. Évidemment, ça me permet aussi d'affiner un petit peu plus selon la région où je vais, mais c'est toujours très sympa.
Alors, comment faites-vous pour vous documenter dans vos recherches ? Vous avez accès à des archives, par exemple ?
La base, c'est le terrain. Faut aller sur le terrain, faut tout voir. Et d'abord, parlons franchement, faut se servir de ce qui a déjà été fait par d'autres. Des recherches sur quelques sujets que ce soit ont déjà été faites par d'autres. Donc premièrement, s'en servir, vérifier que c'est juste, résumé, qu'ils ne sont pas fichus dedans. Hein. Et puis, sans arrêt, vous regardez les cartes récentes, les cartes anciennes, on peut en parler aussi. Vous regardez les photos. On a un site formidable sur Internet qui s'appelle Géoportail qui vous permet d'avoir le cadastre napoléonien, qui vous permet d'avoir les cartes de Cassini, qui vous permet d'avoir les anciennes cartes d'état-major de 1866, qui vous permet d'avoir des photos aériennes que vous agrandissez comme vous voulez, qui vous permet d'avoir aussi l'évolution de chaque village, de voir, et surtout un certain nombre de missions aériennes. On considère qu'il y a entre 50 et 80 missions aériennes depuis les années 30, en gros, et tout est disponible gratuitement sur Géoportail. Donc, ça vous permet d'avoir l'évolution. Et par exemple, je sais que Valence, la première mission aérienne date de 1921. Et des photos d'une qualité, vous voyez le centre de Valence, vous voyez les environs de Valence et autres. Et ben on se rend compte que ça a pas mal changé hein, quand même. Et puis surtout, quand on fait des recherches sur le terrain, avoir des photos aériennes d'avant le remembrement. Quand la campagne gardait encore le souvenir de son antiquité, quand elle n'était encore pas massacrée par par le progrès, quoi, les autoroutes, les constructions, les routes, les canaux, etc., etc.
L'agriculture intensive.
L'agriculture intensive.
Alors, vous disiez, vous parliez d'un site Géoportail, mais est-ce que vous-même avez un blog ou un site ?
Non.
Et comment feront alors donc les candidats exposants pour se signaler auprès de vous, pour être présents ?
Il y a deux solutions, soit ils écrivent à l'association, soit ils me joignent directement. Je ne sais pas si ça se fait au niveau de votre radio de laisser les coordonnées. On peut toujours me contacter sur ma boîte mail, patrick.berger814@orange.fr. Sinon, téléphonez au 06 29 73 00 18.
Voilà, et donc c'est une, disons que ça sera un interview d'amorçage pour cet événement qui aura lieu donc du 23 au 25 juin. Et par ailleurs, vous viendrez certainement nous en reparler pour plus de précisions et puis peut-être plus ce qui touche le DIWA.
Ah ben, ça sera avec plaisir. J'avoue que quand je reviendrai, j'aurai de la documentation sur le DIWA, puis j'aurai un petit peu travaillé.
Eh bien, Patrick Berger, merci d'être venu nous voir et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup. Au revoir.
Interview. 1-terre-view.
Okay, the bird.
Interview. L'interview du jour.